Vous êtes sur RTL.
Bouchon.fr.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour François de Rugy.
Bonjour.
Un mot du prix des carburants qui sont effectivement repartis à la hausse. L'essence en moyenne coûte aussi cher qu'en octobre dernier. Vous allez me dire, François de Rugy, que ça n'est pas le gouvernement qui fixe les cours du pétrole. Mais il y a aussi beaucoup
C'est
de
vrai.
Taxes. Absolument. Donc ma question, elle porte sur les taxes. Vous pouvez toujours opérer là-dessus. Est-ce que vous allez faire un geste ?
Écoutez, nous avons fait un geste au 1er janvier 2019. C'est tout récent, puisqu'il était prévu de continuer à augmenter ce qu'on appelle la taxe carbone, qui aurait donc augmenté les prix de l'essence de 3 centimes et les prix du diesel de 6 centimes, presque 7 centimes. Nous avons décidé de stopper cette hausse parce que nous avons considéré que ça posait des problèmes de pouvoir d'achat. Nous avons pris d'autres mesures de pouvoir d'achat. D'autres taxes baissent. La CSG baisse, les cotisations sociales
le dire,
sur les salaires baissent.
Ouais.
La taxe d'habitation baisse. On ne peut pas baisser tous les impôts et toutes D'accord. les taxes en France, sans quoi c'est évidemment le budget de l'État qui s'en trouverait gravement déséquilibré.
Donc vous
nous
laissez
agissons.
Faire pour cette hausse de carburant
Justement.
Qui atteint le pouvoir d'achat de ceux qui sont obligés d'aller travailler en voiture, par
nous
exemple.
Nous agissons à court terme. C'est la question du chèque déplacement. Le chèque déplacement sur le modèle du chèque déjeuner que tout le monde connaît dans les entreprises, il est actuellement en discussion. Nous étions hier avec le Premier ministre, avec les syndicats, le patronat. Et on sait bien, ce sujet, nous l'avons travaillé avec les partenaires sociaux depuis 3 mois. Et moi, je souhaite que l'on puisse aboutir, que les partenaires sociaux puissent aboutir d'ici le mois de juin, enfin la fin du mois de juin, pour que dans toutes les entreprises de France, eh bien, chez tous les employeurs, il puisse y avoir une discussion, une négociation et que les salariés puissent avoir un chèque déplacement comme il y a le chèque déjeuner. Et l'État s'engagera là à ce que ce dispositif ne fasse pas l'objet de cotisations sociales ou de fiscalité, ce qui permet aux entreprises de le payer à moindre coût.
Un chèque déplacement défiscalisé, mais facultatif. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit obligatoire ?
C'est
qu'il
les
soit
syndicats, comme la CFDT, demandent que ce soit un droit pour les salariés,
ouais.
et que donc les employeurs soient obligés de l'accorder aux salariés qui le demandent. Le MEDEF, la CPME voudraient que ce soit facultatif. Ça fait partie de la discussion, ça fait partie
vous,
de la négociation.
Personnellement, vous êtes favorable à ce que ce soit une obligation pour les entreprises, quelle que soit la taille d'ailleurs ?
Vous savez qu'aujourd'hui, tout salarié de France peut demander à son employeur de se faire rembourser la moitié de son abonnement de transport en commun. C'est obligatoire aujourd'hui pour un employeur de payer la moitié de l'abonnement de transport en commun. Ça, c'est des mesures concrètes de
Donc
pouvoir
de
d'achat pour alléger une facture qui est celle des transports. Mais par ailleurs, il faut aussi le dire, il faut continuer à travailler sur le moyen et le long terme pour libérer les Français du pétrole. Moi, c'est ce que je dis depuis que j'ai été nommé, et c'est la politique que nous menons pour permettre aux Français de changer de voiture. Vous savez, quand on achète une voiture simplement qui consomme 5 litres au 100 au lieu d'une voiture qui en consomme 6 ou 7, eh bien c'est une économie ensuite qu'on fait sur chaque plein d'essence.
D'ailleurs, la prime à la casse pour une voiture propre,
elle n'a jamais aussi bien marché.
Vous avez des chiffres depuis
oui,
le début de l'année ?
Oui, depuis le début de l'année, on est à 8000 demandes par semaine. C'est-à-dire que si on continue comme ça jusqu'à la fin de l'année, ça fera plus de 400 000 Français qui bénéficieront d'une aide. L'an dernier, c'était moins de 300 000. Donc vous voyez que ça continue à augmenter grâce à une mesure que nous avions prise l'année dernière, à la fin de l'année dernière, au mois de décembre, et qui est déjà en vigueur. C'est d'augmenter la prime. Elle peut aller jusqu'à 4000 euros pour un ménage modeste qui, justement, va au travail avec sa voiture.
Mais je répète ce que vous disiez. Vous êtes favorable à ce qu'il y ait de façon obligatoire des discussions, des négociations dans chaque entreprise pour imposer, pour qu'il y ait une prime transport de façon à aider ceux qui sont obligés de prendre la voiture pour travailler, qui n'ont pas de transport en commun.
Voilà, il faut que les partenaires sociaux aboutissent sur ce sujet.
Hier soir, le président a pris la parole pour conclure le sommet lié à la biodiversité dont on a beaucoup parlé déjà sur RTL. Sur le dossier d'abord de la montagne d'or en Guyane, c'est un projet d'exploitation d'une mine d'or énorme en Amazonie. C'est une absurdité totale, il faut le dire, sous l'angle de la biodiversité, mais il y a beaucoup d'emplois à la clé. Le président a annoncé qu'une décision formelle et définitive serait prise en concertation avec le territoire. Et ce sera en Conseil de défense écologique. D'abord, c'est quand ce Conseil de défense écologique ?
Alors, la première réunion de ce Conseil de défense écologique était construite sur le modèle du Conseil de défense, c'est-à-dire une mobilisation au-delà de mon ministère, de tous les ministères concernés sur les sujets écologiques. Et le fait souhaite que tous les ministères concernés, à tour de rôle, rendent des comptes sur l'avancement des mesures qui les concernent. Sur la montagne d'or, j'ai prévu moi-même de me rendre en Guyane au mois de juin. J'ai déjà rencontré beaucoup d'acteurs, des opposants, des partisans du projet, mais je veux aller sur place, rencontrer aussi les communautés amérindiennes qui sont opposées à ce projet. Et ensuite, nous serons amenés à prendre une décision.
Conseil de défense écologique, donc après le mois de juin.
Sur ce sujet spécifique de montagne d'or, oui, sachant que par ailleurs, nous avons en projet la réforme du code minier, car aujourd'hui, la réglementation sur les mines est totalement obsolète. Elle date du 19e siècle, à une époque où évidemment, on ne parlait pas du tout d'environnement.
Mais soyons clairs et précis pour nos auditeurs. Lorsque le président dit qu'une décision formelle et définitive sera prise, est-ce que cette décision, elle peut aller jusqu'à l'abandon ?
Et vous savez, pour l'instant, le consortium Montagne d'Or, qui est russo-canadien, il n'a même pas demandé d'autorisation sur un projet précis. Il fait des plaquettes et il dit, voilà, je vais créer des centaines d'emplois, mais il n'en dit pas beaucoup plus sur les conditions concrètes de réalisation. Sur la base des déclarations qu'il fait, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le président l'a dit hier, cela ne correspond pas à nos exigences environnementales.
Ouais.
Donc,
mais
à partir de là, s'il demandait une autorisation aujourd'hui...
Est-ce que ce projet, encore une fois, en pleine Amazonie, qui va de toute façon déboucher sur des destructions, des abattements d'arbres. Est-ce que ce projet peut être propre ? Est-ce que vous pouvez concevoir, alors qu'une urgence climatique encore hier a été officialisée par les experts et avalisée par le président, est-ce que vous pouvez concevoir qu'il se fasse ?
Non, si il y avait une demande d'autorisation aujourd'hui, elle ne serait pas accordée.
Ça, vous l'avez déjà dit. Est-ce que
révision précis, du... C'est précis sur la base aujourd'hui de ce que serait la réalisation de ce projet en termes d'impact environnemental, y compris en termes de consommation d'énergie, la réponse serait négative.
Donc vous ne dites pas aujourd'hui, il ne se fera pas éventuellement. Je peux envisager, je conçois qu'il y a un abandon de ce projet.
Non, parce que pour une raison simple, c'est que le code minier tel qu'il est fait aujourd'hui ne permet pas d'intégrer les dimensions environnementales dans les autorisations. Et c'est pour cela que je veux réformer le code minier.
Le président dit en concertation avec le territoire, vous pourriez finalement refiler le bébé aux élus locaux.
Non,
ça
non,
pourrait
non,
être
pas...
eux qui décideraient.
Non, non, il n'en est pas question. C'est une prérogative de l'État. En revanche, il est tout à fait normal qu'on discute du développement économique local avec les élus locaux. Vous savez, la Guyane, c'est un territoire, par ailleurs, qui fait souvent parler de lui, y compris sur les aspects sociaux, les crises sociales qu'il y a eu, les difficultés économiques, les difficultés d'emploi. C'est un des territoires d'outre-mer qui est le plus en difficulté du point de vue de l'emploi. Donc, il faut aussi entendre, évidemment, cela. Et il y a aussi des choses à faire sur la question du bois, sur la question de la pêche. Il y a d'autres activités possibles en Guyane que l'exploitation de l'or, qui existe déjà et qui fait déjà beaucoup de dégâts, même si ce n'est pas une exploitation industrielle.
Vous serez vigilant.
Ah mais non seulement je serai vigilant, mais je serai très exigeant sur la protection de cette partie de la forêt amazonienne. Les Français ne le savent pas forcément, mais nous avons une partie de la forêt amazonienne en France à travers la Guyane.
Et qui assure une grande partie de la biodiversité. Big bang de mots sans action réelle, disait tout à l'heure sur RTL Yannick Jadot, après avoir écouté le président hier conclure le grand sommet de biodiversité. Beaucoup de mots, pas d'action, blablabla. Bla.
Oui, mais lui, il est dans la surenchère permanente. Monsieur Jadot, moi j'aimerais bien qu'il nous dise ce qu'il a fait au Parlement européen depuis 10 ans.
Mais
il est parlementaire européen depuis 10 ans. Et vous savez que, par exemple, sur le glyphosate, je vais vous donner un exemple concret.
On l'a entendu souvent en tribune,
sur le glyphosate,
avec beaucoup de passion, défendre
l'écologie.
Oui, mais
vous savez, ça sert à rien pour l'écologie de ne faire que des discours. De faire des discours les plus contestataires possibles.
Il n'est pas aux manettes,
les plus
vous l'êtes.
Voilà. Ah ben voilà.
Bah, oui.
Eh ben voilà. Et ce qui compte pour l'écologie, c'est d'être aux manettes. Au niveau européen, on a les élections européennes.
Ça suffit pas d'être aux manettes. Encore faut-il agir efficacement.
Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'est pas aux manettes, qu'on se contente de crier, de protester, et bien de contester, de s'opposer, on ne fait rien. On a zéro résultat. Et je vais vous dire, les consortiums, que ce soit Montagne d'Or, que ce soit les grandes entreprises de la chimie, que ce soit les grandes entreprises de l'automobile, elles n'aiment rien tant que les écologistes qui protestent, qui contestent et qui s'opposent, mais qui ne font rien. Moi, j'ai mené des batailles depuis que je suis ministre.
Nicolas
au niveau
Hulot,
européen,
qui était ministre, a dit,
et j'ai obtenu
dit en
des
gros
résultats.
La même chose que lui, et pourtant il a été aux manettes.
Et
il a dit hier, il était hier soir sur RTL, au micro de Marc-Olivier Fogiel, assez désabusé. Il dit, on est passé de l'écolo-scepticisme, c'est déjà très négatif, à l'écolo-fatalisme, genre de toute façon on ne peut rien faire, donc on ne fait rien.
Bah, ce n'est pas mon état d'esprit. Moi je vous donne un exemple concret sur l'Europe, puisque nous sommes dans la campagne européenne. Moi j'ai mené la bataille sur les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie automobile. Et ça, c'est concret. 37,5% d'émissions de CO2 en moins d'ici 10 ans, c'est une obligation. C'est ce qu'on va obliger les constructeurs automobiles à baisser, et sinon ils auront des amendes. Et vous savez qu'il y aura des premières amendes d'ailleurs dès l'année prochaine. Cette bataille, il fallait la mener. Si j'étais resté à l'extérieur à crier, à protester ou à dire je suis fataliste ou je suis sceptique, ben, on n'aurait rien obtenu. Alors, et c'est l'industrie automobile qui aurait gagné à la fin.
Est-ce que l'avenir de l'écologie est entre les mains des 150 citoyens qui vont constituer ce conseil tout à fait nouveau en France?
Oui.
Tirage au sort début quand?
Nous allons faire le tirage au sort dans le courant du mois de mai jusqu'au début juin pour que cette assemblée citoyenne...
Donc ça va commencer 150, là dans les jours qui viennent?
Bien sûr, nos 150 citoyens tirés au sort puissent se réunir au mois de juin. Vous savez qu'on ne peut pas le faire là pendant la campagne européenne, mais bien sûr, c'est totalement inédit, comme vous venez de le dire, de dire à 150 citoyens tirés au sort, eh bien, proposer des choix, proposer un paquet de mesures qui soient cohérents, et le président de la République s'engage, ce qui là aussi est totalement inédit, à ce que ces choix proposés par des citoyens soit soumis à ratification par le Parlement ou au peuple français par le référendum.
Il n'y aura pas de filtre politique. C'est-à-dire que leurs décisions seront forcément traduites soit par un référendum que vous avez souhaité.
Donc c'est le peuple français qui déciderait. Hein, le peuple français, par référendum, pourrait décider, ou le Parlement, par un vote direct sur ce projet issu des citoyens. Ce n'est pas une consultation, ce n'est pas un rapport, ce n'est pas un avis, ce n'est pas quelque chose dans lequel on va peut-être aller piocher. C'est un paquet de mesures qui ensuite sera soumis à la décision.
Vous y engagez. Encore une fois, il n'y aura pas...
Et c'est très important, parce qu'une assemblée de citoyens, ils ne vont pas travailler simplement pour émettre un avis, ils vont travailler concrètement pour proposer un certain nombre de choix. Par exemple, la question de la fiscalité écologique.
La taxe carbone.
C'est efficace, c'est pas efficace, il faut le faire, il faut pas le faire, si on le fait, où est-ce qu'on met l'argent? Voilà ce que les citoyens pourront concrètement proposer en faisant un équilibre budgétaire. S'il y a des nouvelles mesures qui demandent de l'argent, eh bien il faudra avoir à côté des recettes. Il faut que ce soit cohérent avec la politique climat que nous menons.
Vous êtes toujours, vous, favorable au retour de la taxe carbone?
Moi, je souhaite que les citoyens, justement, tirent au sort, en parlent, qu'ils écoutent les experts.
Un référendum là-dessus ou pas?
Non, on ne peut pas faire de référendum en France sur la fiscalité, mais on peut avoir toutes les autres mesures. On parle aussi du logement. Est-ce que sur le logement, on passe à la vitesse supérieure en termes d'obligation d'isolation? Est-ce qu'on a des moyens supplémentaires pour aider les travaux? Voilà les questions qui seront concrètement sur la table de cette Assemblée citoyenne.
Encore un mot, j'entendais Benoît Hamon hier, qui est candidat aux européennes, lui aussi, dire que la majorité panique pour les européennes, alors elle lorgne sur l'électorat vert en annonçant des plans écolos dans tous les sens. Vous paniquez? Parce que vous n'êtes pas sûr d'être en tête le 26 mai.
Monsieur Hamon, c'est pareil, mais qu'il développe son projet, qu'il se fasse élire député européen, puisqu'il n'a pas été élu président de la République, mais il peut se faire élire député européen, il n'a pas été élu député non plus à l'Assemblée nationale. Bon, qu'il se fasse élire député européen, et on verra ce qu'il fait, et qu'il nous dise maintenant,
mais parce que ça, il faut le dire. Est-ce que vous paniquez?
Ah non, moi je vais vous dire, moi je suis dans la détermination pour l'action, depuis le premier jour où j'ai été nommé. Et donc mon but, c'est de traduire les discours, justement, en actes. De faire en sorte que concrètement les Français puissent voir leur environnement s'améliorer. Que le progrès écologique, tout le monde en profite.
Pas de panique, nous dit François Rugy ce matin sur RTL. Bonne journée à vous.
Et comme chaque jour, l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le...